La porteuse de pain, première partie, chapitre 11 à 15. Jacques Garot fit son service habituel, cachant à tous les yeux, à force d'énergie, le trouble qui le dominait. Comme la veille, il se rendit à 9 heures précises au bureau de M. Labrou et poursuivit avec lui les études relatives à l'invention nouvelle. À 11 heures, le contremaître sortit pour aller déjeuner, mais pas plus à l'aller qu'au retour, il n'adressa la parole à Jeanne en passant devant sa loge. Madame Fortier put constater seulement qu'il paraissait de plus en plus sombre. Dans l'après-midi, il retourna trouver l'ingénieur. Celui-ci écrivait. « Jacques, dit-il au contremaître, vous pourrez commencer les dessins pour le moulage. Moi, je termine une lettre pressée. » Garot se mit au travail. Sa main tremblait. Ses yeux n'avaient pas leur netteté de perception habituelle. Il fut obligé d'attendre, afin de donner à sa main et à son regard le temps de se raffermir. Le caissier Ricou entra dans le cabinet. « On arrive de la banque, monsieur, » fit-il. « Eh bien ? » demanda l'ingénieur en levant la tête. « On a encaissé ?»« Oui, monsieur, je vous apporte le montant du bordereau. » « Revenez un peu plus tard, je vous prie. Je désire en ce moment n'être pas interrompu. »« Bien, monsieur. » Le caissier sortit. Jacques, présent à cette courte conversation, avait tressailli en entendant ces mots. « Je vous apporte le montant du bordereau. » Puis il s'était courbé de nouveau sur son travail, mais les doigts plus tremblants encore, les paupières agitées par une contraction nerveuse. Un quart d'heure s'écoula. On entendit frapper à la porte. « Entrez ! » cria l'ingénieur avec impatience. Jeanne parut sur le seuil. « Monsieur, dit-elle, c'est une dépêche. » Et elle tendit à M. Labrou une enveloppe de papier bleu. « Merci, répondit M. Labrou en prenant le télégramme. Madame Fortier sortit après avoir jeté un coup d'œil à Jacques, qui se courbait sur sa planche à dessin. L'ingénieur déchira l'enveloppe, parcourut du regard la feuille oblongue qu'elle contenait, poussa une exclamation douloureuse et devint très pâle. « Lucien malade » s'écria-t-il. « En danger, peut-être. Oh, mon Dieu !» Puis s'adressant au contremaître, il poursuivit. « Je reçois une dépêche de ma sœur. Mon fils est souffrant. Je vais partir à l'instant même. Jacques, rassemblez les dessins et les plans et donnez-les-moi. Je les enfermerai dans le coffre-fort. « Oui, monsieur, tout de suite, » répliqua le contremaître, dont un éclair de joie illumina le visage contracté. Et il se mit en devoir de rassembler les papiers. M. Labrou agita un cordon et fit retentir un coup de cloche dans la cour. Il alla ensuite à la porte de son cabinet, l'ouvrit et appela le caissier qui ne se fit point attendre. « Mon cher Ricou, » lui dit le patron, « un télégramme de ma sœur réclame ma présence auprès de mon enfant malade. Je vais partir. « Faites votre caisse, gardez les sommes qui vous seront utiles et remettez-moi le reste. »« Oui, monsieur, » répondit le caissier, « mais je vous vois tout bouleversé. Permettez-moi de vous demander si la maladie de monsieur Lucien est grave. » »« Les télégrammes sont toujours effrayants par leur laconisme. Ma sœur ne me donne aucun détail et je veux savoir. Si j'attendais, je mourrais d'inquiétude. Hâtez-vous donc. Il me faut le temps d'aller à Paris et de prendre le train-poste au chemin de fer d'Orléans, à 8h20. « Je vais me hâter, monsieur. » Ricou sortit. Le coup de cloche dont nous avons parlé appelait Jeanne Fortier. Elle s'empressa d'accourir. « Donnez l'ordre au cocher d'atteler le coupé vivement, je vous prie, » lui dit M. Labrou. « Vous reviendrez ensuite me parler. » Jeanne reparut au bout de quelques minutes. Jacques était toujours là, rangeant lentement les papiers. Ricou, le caissier, était rentré et rendait ses comptes. « Je garde 5 000 francs par-devers moi, monsieur, » disait-il. J'espère bien n'avoir pas besoin d'ouvrir la caisse avant votre retour. « Peut-être, » répliqua l'ingénieur. « Ne m'attendez que dans 2 jours au plus tôt. C'est aujourd'hui mercredi. En admettant que je ne sois point retenu par la maladie de Lucien, je ne serai ici que samedi dans la matinée. Combien m'apportez-vous ? » « Aux 127 000 francs du bordereau touchés à la banque, je joins les recettes de la journée. 11 027 francs, sur lesquels je garde 5 000 francs. Total, 133 027 francs. Donc, avec ce que vous avez en caisse, cela fera 190 253 francs 70 centimes. Ce doit être juste. Assurez-vous-en, monsieur. Je n'ai pas le temps de vérifier. Et l'ingénieur enferma dans son coffre-fort les sommes que lui remettait le caissier. Jacques et Jeanne attendaient. Madame Fortier regardait le contremaître et trouvait à son visage une expression étrange, une expression qu'elle ne lui connaissait pas avant ce jour et avant cette heure. Jacques s'avança vers Monsieur Labroux. « Voici les dessins et les plans, monsieur, » dit-il en présentant à son patron les papiers qu'il avait réunis. Monsieur Labroux les prit et les plaça dans le coffret qui les renfermait habituellement, puis il posa le coffret lui-même dans la caisse. « À mon retour, » fit-il, « nous continuerons ce travail. » « Bien, monsieur, vous n'avez pas d'ordre à me donner? De recommandations à m'adresser? » « Si, attendez un instant. » L'ingénieur se tourna vers Jeanne et poursuivit. « Madame Fortier, je vous recommande de ne pas vous départir, ne fût-ce qu'une minute, de la surveillance qui vous incombe. À mon retour, je m'occuperai de vous. Soyez certaine que je ne vous laisserai point sans emploi. Oubliez ce qui s'est passé entre nous, comme je l'oublie moi-même. » Jeanne, étonnée de cette bienveillance inattendue, restait muette. Le caissier Ricou l'examinait avec attention. « Mauvaise nature, décidément, » murmurait-il. « Cette femme déteste le patron. Elle voudrait se venger en lui faisant du mal. Ça saute aux yeux. » Monsieur Labroux continua. « Préparez-moi, je vous prie, une petite valise contenant un peu de linge. Joignez-y un pardessus et une couverture de voyage. » Madame Fortier sortit du cabinet. En la voyant s'éloigner, muette et sombre, l'ingénieur dit au caissier et au contremaître. « Elle m'en veut beaucoup, la pauvre créature. Elle ne comprend pas que le poste occupé par elle ici n'est nullement son affaire. Je sais bien que j'ai été un peu cassant, un peu brutal même. Que voulez-vous? Elle me portait sur les nerfs avec sa manie d'avoir raison. Je lui ferai oublier cela. Je vais m'occuper d'elle sérieusement. » Monsieur Labroux donna ensuite ses dernières instructions à Ricou et à Jacques. On entendit la voiture rouler sur le pavé de la cour. 5 minutes plus tard, elle se dirigeait rapidement vers la gare du chemin de fer d'Orléans, emportant l'ingénieur. Jeanne, le contremaître et le caissier assistaient à son départ. « Je vous recommande de fermer les portes avec soin, Madame Fortier, » dit le caissier à la jeune veuve. « Mon avis est que le patron vous laisse bien légèrement une bien grosse responsabilité. » « Soyez sans inquiétude, monsieur, » répondit Jeanne. Ma surveillance ne sera point en défaut. » Nos trois personnages se séparèrent. Ricou regagna sa caisse. Jacques rentra dans les ateliers et Madame Fortier dans sa loge. À l'heure de la sortie, le contremaître, comme de coutume, quitta le dernier l'usine et vint apporter à la gardienne les feuilles de présence pour le lendemain. « Bonsoir, Jeanne, » dit-il après avoir déposé ses feuilles sur une table. « Bonne nuit. » Il allait sortir. Cette fois, ce fut Madame Fortier qui l'arrêta. « Que vouliez-vous donc me dire ce matin, Monsieur Garreau ? » demanda-t-elle. Jacques tressaillit visiblement et répondit. « Je voulais vous dire bien des choses. »« Eh bien, dites-les. »« Non. »« Pourquoi ? Il est donc inutile que je les connaisse, ces choses ? » ?»« Ce serait très utile, au contraire. »« Mais j'ai réfléchi. »« Pas encore. Je n'ose pas. »« Vous n'osez pas ? Vous ?» « Oui, moi. Mais si je ne vous parle point, je vous écrirai. C'est plus facile. » Jeanne trouva les paroles du contremaître non moins étranges que sa physionomie. « Vous me faites presque peur, » murmura-t-elle. « Pourquoi donc êtes-vous si sombre ? Ne me demandez rien, quant à présent du moins, et répondez à une question qu'il faut que je vous adresse. Laquelle ? » Jacques se taisait. « Une question ? » répéta Jeanne. « Laquelle ? « Avez-vous sérieusement pensé à ce que je vous disais hier, relativement à votre situation ?» reprit le contremaître. « Oui, j'y ai pensé. Et consentez-vous à ce que je vous proposais ?»« Je vous répondrai plus tard. »« Toujours plus tard. Mais quand ?»« Quand vous m'aurez appris ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'osez pas m'apprendre aujourd'hui. » Jeanne appuya sur les mots soulignés par nous. « Eh bien, » répliqua Jacques, « demain, notre sort à tous deux sera fixé. »« Demain ? Pourquoi demain ? Ne m'interrogez point, je ne répondrai pas. »« Demain arrivera vite et cependant, en quelques heures, il se passe parfois bien des choses. Puis Jacques Garot, voulant couper court à l'entretien, partit brusquement. Mais il ne s'égara pas comme la veille dans les sentiers de la campagne. Il alla dîner à l'endroit où il prenait habituellement ses repas, resta chez le marchand de vin jusqu'à 10 heures du soir, jouant aux cartes de l'air le plus calme, avec quelques camarades auxquels il souhaita une bonne nuit en les quittant. Aussitôt qu'il fut seul, son visage insouciant et presque gai pendant toute la soirée changea d'expression et redevint sombre comme il l'était depuis 2 jours. Au lieu de se rendre chez lui, Jacques suivit la route de Créteil et s'engagea dans un sentier traversant la plaine entre Alfortville et Alfort, en passant derrière le fort de Charenton. Bientôt, il se trouva dans les terres labourées. Il allait vite, s'arrêtant par instants, jetant dans les ténèbres des regards inquiets et prêtant l'oreille afin de s'assurer que personne ne marchait derrière lui ou ne venait à sa rencontre. Quand il longea les murs du fort où une sentinelle en faction faisait les 100 pas, il eut soin de fouler avec précaution l'herbe des talus gazonnés, étouffant ainsi le bruit de ses gros souliers. Évidemment, le contremaître connaissait à merveille le chemin. Soudain, il s'arrêta. Une muraille se dressait en face de lui. C'était celle de l'usine de M. Labroux. Il la côtoya jusqu'à la petite porte bâtarde dont nous avons parlé et qui se trouvait voisine du pavillon habité par l'ingénieur. « C'est par là qu'il faut entrer, » murmura-t-il en se baissant vers la serrure qu'il examina avec attention, palpant du doigt l'ouverture pratiquée pour la clé. Tirant ensuite de sa poche une petite boîte de fer blanc, il l'ouvrit. Cette boîte renfermait un morceau de cire à modeler avec lequel il prit l'empreinte de la serrure. Ceci fait, il passa la main sur son front mouillé de sueur et se dirigea vers Alfortville par le même chemin qu'il avait suivi pour venir. À cette heure précise, M. Labroux descendait du train-poste qui s'arrêtait à Blois et dans lequel il était monté à Paris. Sa valise à la main, il quitta la gare et gagna la ville en marchant rapidement. Sa sœur, Madame Bertin, nous l'avons dit, habitait dans les environs de Blois, un village où elle vivait d'une façon fort modeste depuis la mort de son mari. Ce village, nommé Saint-Gervais, se trouvait sur la route de Bracieux, à 3 kilomètres de Blois. M. Labroux, ne pouvant à cette heure tardive se procurer une voiture sans une grande perte de temps, traversa le pont et s'engagea sur la route de Saint-Gervais. Il était haletant. Aimant le petit Lucien jusqu'à l'adoration, la dépêche expédiée par Madame Bertin remplissait son cœur paternel de douloureuses angoisses. L'enfant, à son arrivée, serait-il plus malade? Serait-il vivant encore? Cette pensée donnait le frisson à l'ingénieur et lui faisait hâter encore sa marche déjà si rapide. Le village de Saint-Gervais, bâti sur le flanc d'un coteau, lui apparut bientôt comme une tache blanche dans l'obscurité de la nuit. M. Labroux suivit presque en courant une rue étroite et tortueuse et s'arrêta devant une porte au-dessus de laquelle s'élevaient des arbres touffus. Il était 1 heure du matin. Un silence absolu planait sur le village endormi. Aussi la cloche qu'il agita résonna-t-elle d'une façon bruyante. L'ingénieur attendit. Au bout de quelques secondes, une fenêtre s'ouvrit et une voix de femme demanda « Qui est là? Qui vient de sonner ?»« Moi, chère sœur, » répondit M. Labroux en reconnaissant la voix. « Comment va Lucien ?»« Dieu soit béni, tout danger a disparu, » répliqua Madame Bertin. « Attends, je vais t'ouvrir. » Et la fenêtre se referma. Un poids énorme avait instantanément cessé d'écraser la poitrine de l'ingénieur. 2 larmes de joie mouillèrent ses joues. La porte de la cour tourna sur ses gonds. Le frère et la sœur tombèrent dans les bras l'un de l'autre. « Ta dépêche m'a fait bien du mal !» s'écria M. Labroux en franchissant le seuil de la maison. « Eh, mon ami, j'ai eu bien peur moi-même, » répondit Madame Bertin. « Mais enfin, qu'avait l'enfant ? » Le médecin redoutait une angine couenneuse. L'ingénieur frissonna. « Pauvre mignon, » murmura-t-il. « C'est effroyablement dangereux, presque toujours mortel. C'est pour cela que mon épouvante était si grande. Mais je te répète qu'il n'y a plus rien à craindre. Le médecin a déclaré ce soir que tout péril avait disparu. Lucien a encore la fièvre, mais il va beaucoup mieux. Je voudrais le voir. Viens, il est dans ma chambre. Mais marche avec précaution. Ne fais pas de bruit, je crois qu'il dort. » M. Labroux s'était débarrassé de sa valise, de sa couverture de voyage et de son pardessus. Il gravit derrière sa sœur l'escalier accédant à la chambre où Lucien reposait dans son petit lit de fer. Madame Bertin marchait sur la pointe des pieds. L'ingénieur l'imita et s'approcha du lit éclairé par une veilleuse. Le visage de l'enfant était pourpre. De grosses gouttes de sueur collaient à ses tempes les boucles de ses cheveux blonds. Ses mains délicates, posées sur la couverture, s'agitaient fiévreusement. Monsieur Labrou le contempla pendant quelques secondes. « Pauvre cher mignon » répéta-t-il, et se penchant vers le lit, il effleura de ses lèvres le front de l'enfant. Le petit malade fit un mouvement. « Ne restons point ici, je t'en prie, » dit Madame Bertin. « Nous le réveillerions, et c'est ce qu'il ne faut pas. » Le frère et la sœur descendirent au rez-de-chaussée. « As-tu besoin de quelque chose ?» demanda la bonne dame. « De rien, absolument. Eh bien, alors prends ce flambeau et va te reposer. Tu sais que ta chambre est toujours prête. Demain, ou plutôt ce matin, nous causerons. Moi, je remonte. J'ai une potion à faire prendre à Lucien quand il se réveillera. » « Que tu es bonne, chère sœur, » fit M. Labrou en attirant à lui Madame Bertin et en l'embrassant. « Est-ce être bonne que de soigner ce chérubin du bon Dieu, qui est un peu mon sang ? En vérité, le beau mérite. Voyons, va te reposer. Le voyage et surtout l'inquiétude ont dû te briser. Au revoir, mon frère, et bonne nuit. » « Oui, bonne nuit, ma sœur. Je dormirai, grâce à Dieu, plus tranquille qu'à la fabrique. » M. Labrou gagna la chambre qui était la sienne lors de ses visites à Saint-Gervais, et Madame Bertin remonta au premier étage. Lucien venait de s'éveiller. Sa tante lui administra une cuillerée de la potion ordonnée par le médecin, et lorsque l'enfant fut rendormi, elle se coucha pour quelques heures à son tour. Le lendemain matin, M. Labrou put embrasser son fils à cœur joie. Lucien allait beaucoup mieux, presque tout à fait bien. Il fut heureux de voir son père et il le témoigna vivement. Le docteur, quand il vint faire sa visite matinale, constata du premier coup d'œil l'état satisfaisant du bébé et il donna aux parents l'assurance positive que la convalescence serait courte. Rassuré d'une façon complète, l'ingénieur manifesta son intention de ne pas prolonger son séjour à Saint-Gervais et de partir dans l'après-midi. « Je prendrai ce soir à Blois, à 4h45, l'express de Paris, » dit-il à sa sœur. « Je serai à 9h à Paris et à Alfortville 1h30 après. Je partirai joyeux et le cœur léger n'ayant plus l'ombre d'une inquiétude au sujet de mon enfant chéri. J'ai là-bas des affaires importantes qui nécessitent ma présence. Donc, il est inutile de rester plus longtemps ici. » On déjeuna dans la chambre du petit malade que la vue de son père égayait singulièrement. « Eh bien ?» demanda Madame Bertin à son frère. « Depuis 3 semaines que je ne t'ai vu, as-tu du nouveau dans ton usine ? Es-tu satisfait ?» Monsieur Labrou eut un sourire aux lèvres. « Si je suis satisfait, » répéta-t-il, « on ne saurait l'être davantage. Je suis en train de m'enrichir. » « N'es-tu donc pas assez riche ? » fit Madame Bertin. « Pour moi, personnellement, oui. Tu sais, Caroline, que mes goûts sont simples. Mais je rêve pour Lucien la vraie fortune, une grande fortune, et je vais la lui gagner. » « Une nouvelle invention, sans doute. Oui, une trouvaille qui aura mis, d'ici à 4 ans, 2 ou 3 millions dans ma caisse. » « Ne t'illusionnes-tu pas un peu ?»« L'illusion est impossible. Il s'agit d'une machine à guillocher, non seulement les surfaces planes, mais encore les contours. Les Américains me paieront cette machine ce que je voudrais. Elle fera fureur. À moins que quelqu'un n'arrive avant toi. Ceci n'est point à craindre. Tout est à craindre pour les inventeurs. Qu'une indiscrétion soit commise et on te vole ton idée. « Ah ça, ma chère sœur, comme tu vois les choses en noir !» s'écria M. Labrou avec un rire contraint. « Que veux-tu ? » répliqua la bonne dame. « Je ne crois pas que les millions fassent le bonheur de ceux qui les possèdent. À ta place, je me contenterai des affaires courantes, bien sûres, sans éventualité, et quand j'aurai amassé un capital suffisant, je passerai la main. « Les millions ne font point le bonheur, dis-tu ? C'est vrai, mais ils y contribuent. Je veux que Lucien occupe dans le monde une situation considérable, et je travaille afin de la lui donner. Je comprends ton désir, seulement ne va pas trop vite. Sois sans crainte. Si je suis ambitieux, non pour moi, mais pour mon fils, cela ne m'empêche nullement d'être prudent. Je fais beaucoup moi-même, et je suis bien secondé par ceux qui m'entourent. Je crois t'avoir déjà parlé de mon contremaître Jacques Garot. Je puis compter sur lui. Il est intelligent, instruit, actif, et je trouve sa collaboration si précieuse que je vais l'associer aux bénéfices futurs que donnera la machine à guillocher. Tu lui as confié le secret de ton invention? Il le fallait bien, puisque c'est lui qui la fera construire. D'ailleurs, je connais l'homme, c'est un honnête garçon. Enfin, tu es sûr de lui? Absolument. Tant mieux. Et cette pauvre femme, cette jeune mère de famille dont le mari a été tué par une explosion, elle est toujours employée dans ton usine, je suppose? Tu me parles d'elle au moment où j'allais t'en parler moi-même, répondit M. Labroux. Oui, elle est toujours à l'usine, mais je suis obligée de me séparer d'elle. Tu la renvoies? Fit Mme Bertin avec surprise. Bien malgré moi, j'y suis forcée. Je comprends mal cela. La mort de son mari, tuée à ton service, t'a créé vis-à-vis d'elle des devoirs impérieux. Je connais ses devoirs et ne compte point m'y soustraire. Jeanne Fortier est une brave et honnête créature, une excellente mère de famille, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour remplir un emploi de surveillance où l'énergie d'un homme est indispensable. Tu aurais dû penser à cela avant de lui donner cet emploi. Je n'ai pas réfléchi. Et tu lui as signifié son congé? Oui. Elle a manqué et laissé manquer au règlement de la maison. Cela est d'un mauvais exemple et ne peut être toléré. Tu es sévère. Je ne suis que juste. Enfin, que va devenir cette pauvre créature? C'est au point de vue de son avenir que je voulais te parler d'elle. Puis-je donc quelque chose? Je le crois. Comment? Depuis longtemps, j'insiste auprès de toi pour qu'au lieu d'une femme de ménage, tu prennes une domestique à demeure. Tu m'as toujours refusé. Je me trouve servie d'une façon très suffisante. Tu sais que j'aime à m'occuper de mon intérieur. Soit, mais Jeanne serait pour toi une compagne au moins autant qu'une servante. Tu n'es plus très jeune, ma chère sœur, et tu as besoin de repos. Ce repos, la présence de Jeanne dans ta maison, te permettrait de le prendre. Son petit garçon, âgé de 3 ans et demi, deviendrait le camarade de Lucien. Plus tard, je lui ferai donner de l'éducation, et je paierai ainsi ma dette à la veuve dont le mari est mort à mon service. Voyons, ma sœur, il faut accepter cette combinaison. Il le faut absolument. Je ne peux pas garder Madame Fortier à l'usine, mais je ne veux pas qu'elle ait à souffrir à la suite de la mesure indispensable que je prends à regret. J'ai été dure avec Jeanne, et je crois qu'elle m'en garde un peu rancune. Eh bien, en rentrant à Alfortville, je désirerais lui donner une bonne nouvelle qui lui fasse tout oublier. Il est bien entendu que l'augmentation de dépenses causée par la présence de Jeanne dans ta maison, ainsi que ses gages, seront à ma charge. Ne me refuse pas. Non seulement tu me ferais beaucoup de peine, mais encore tu me mettrais dans un sérieux embarras. Je ne veux te causer ni embarras ni chagrin, mon frère, répliqua Madame Bertin. Je t'aiderai donc, et de grand cœur, par ton œuvre de charité. Tu peux, dès ton retour à l'usine, m'envoyer Jeanne Fortier et son fils. Ah, tu es vraiment bonne, s'écria M. Labroux en serrant avec effusion les mains de sa sœur. Décidément, je partirai de chez toi, le cœur tout joyeux. L'ingénieur demeura pendant le reste de l'après-midi près du lit de Lucien, dont le mieux s'accentuait d'heure en heure. Tandis qu'avaient lieu au village de Saint-Gervais les choses que nous venons de raconter, voyons ce qui se faisait à l'usine d'Alfortville. L'entrée des ouvriers dans les ateliers s'était opérée comme de coutume. Jacques Garot, arrivé l'un des premiers, avait passé devant la loge sans donner signe de vie et sans que Jeanne, occupée à faire signer la feuille, ait pu s'apercevoir de son passage. Cependant, elle le guettait de son mieux. Depuis la veille, les paroles énigmatiques du contremaître, et surtout l'étrangeté de son allure et de sa physionomie, causaient à Madame Fortier une préoccupation très grande. Elle souhaitait voir Jacques pour s'assurer qu'il était plus calme, et pensant à lui sans le vouloir, elle semblait à tel point agitée et fiévreuse que plusieurs personnes lui en firent l'observation. David s'en inquiéta surtout. David, le garçon de bureau, qui était entré pour prendre les clés du cabinet de l'ingénieur et de celui du caissier Ricou, où chaque matin il mettait tout en ordre. « Comme vous voilà palote, Mme Fortier !» lui dit-il. « Est-ce que vous êtes malade ?»« Mais non, Monsieur David. Cependant, vous avez quelque chose. »« Rien d'extraordinaire, je vous assure. »« Adam, je comprends que votre départ d'ici vous préoccupe. Il faut changer ses habitudes, il faut se caser. » Il faut chercher et trouver de l'ouvrage. Est-ce que vous resterez dans le pays, Mme Fortier? Je n'en sais rien encore, Monsieur David, répondit sèchement Jeanne, qu'importunaient les questions du garçon de bureau. Il n'en continua pas moins. Je pense que le patron ne vous laissera point partir sans vous donner une jolie gratification à titre d'indemnité. Ce ne sera que justice. Il vous doit bien ça.
Je ne demande rien, fit la jeune veuve d'un ton hautain.
Parbleu, bien entendu, chacun a sa fierté, n'est-ce pas? Mais on peut ne rien demander et accepter si on vous offre.
Je ne recevrai pas d'aumône.
Diable, comme vous dites ça, personne ne songe à vous parler d'aumône. Vous lui en voulez donc bien au patron?
Jeanne ne put contenir un geste d'impatience.
Monsieur David, je vous en prie, fit-elle, ne parlons plus de cela. Voici les clés. Vous me remettrez celles du bureau de Monsieur Labroux aussitôt que vous aurez fini de ranger, n'est-ce pas?
Elle tourna sur ses talons et gagna le fond de la loge.
Oui, oui, Mme Fortier, comme d'habitude.
Et David se retira en grommelant entre ses dents.
Je crois que le patron passerait un vilain quart d'heure si elle le tenait dans un petit coin, entre quatre yeux. Saperlipopette, elle a rudement pris ça à cœur d'avoir reçu son compte.
Jeanne allait et venait rangeant à droite et à gauche. Tout à coup, une idée lui traversa l'esprit.
Ah, murmura-t-elle, il ne faut pas que je laisse ce maudit pétrole dans le bidon qui appartient à l'usine. Je vais le transvaser dans des bouteilles que j'emporterai en partant et je m'en servirai pour m'éclairer chez moi.
Sortant aussitôt de la loge, elle alla droit à la resserre qui se trouvait auprès du petit pavillon et l'ouvrit. Le bidon à pétrole était sur une tablette à côté de quelques bouteilles vides. Jeanne plaça les bouteilles à terre près du bidon qu'elle déboucha et dont elle se mit en devoir de transvaser le contenu. Elle achevait de remplir la première bouteille quand un coup de sonnette retentit à la porte. Madame Fortier posa son bidon et s'approcha du guichet pratiqué dans la porte pour voir qui sonnait. C'était le caissier. Elle ouvrit. Monsieur Ricou entra, referma la porte derrière lui et passa devant Jeanne qui lui dit bonjour et qu'il salua légèrement. Tout à coup, au lieu de continuer son chemin, il s'arrêta en face de la resserre ouverte.
« Cela sent encore le pétrole, Madame Fortier, » dit-il en fronçant le sourcil.
« Cela n'est point étonnant, monsieur, » répliqua Jeanne d'un ton sec. « Je mets dans des bouteilles celui qui contient le bidon. Il est à moi, ce pétrole. Je l'emporterai en m'en allant et je m'en servirai chez moi pour m'éclairer. Je serai libre alors. On n'aura plus peur que je mette le feu à l'usine. »
Rico murmura entre ses dents. « On a toujours raison d'avoir peur. Il y a des gens haineux qui font le mal pour le mal. »
La jeune femme avait entendu. Elle haussa les épaules sans répondre. Jacques, en ce moment, aborda le caissier.
« Je vous ai vu entrer, dit-il, et je viens à vous. »
La voix du contremaître fit retourner Jeanne. Elle regarda Garot, qui lui parut fort calme et dont le visage n'était plus altéré et décomposé comme la veille. De son côté, tout en parlant, Jacques l'examinait à la dérobée.
« Que me voulez-vous ? Demanda Ricou.
« Je veux vous avertir que la femme de Vincent est morte hier au soir. »
Oh oh, le pauvre diable avait raison d'avoir des pressentiments.
Il m'a fait prier par un mécanicien de lui envoyer l'argent qui lui est dû, en ajoutant qu'il ne reviendrait pas à l'atelier et qu'il allait retourner dans son pays.
Voyez-vous ça? Il aura eu vent de son renvoi, le gaillard, et comme il a de l'amour-propre, il prend un prétexte pour n'avoir pas l'air d'avoir été congédié. Croyez-vous que ce soit cela, Jacques?
Je n'en sais rien, monsieur Ricou.
Avez-vous fait le compte de Vincent?
Oui. Donnez-le-moi alors.
Le voici.
Jacques tira de sa poche une feuille de papier et la tendit au caissier qui la parcourut des yeux.
54 euros à 90 centimes, total 48 francs 60. Venez avec moi, Jacques, je vais vous remettre cette somme.
Tandis que s'échangeaient ces paroles, Jeanne achevait de transvaser son pétrole. Ensuite, elle plaça les bouteilles sur la tablette de la resserre, avec le bidon vide. Le contremaître suivit le caissier, toucha la somme due à Vincent, la remit au camarade du mécanicien qui s'était chargé de transmettre sa réclamation, puis visita les ateliers, en finissant par celui des menuisiers et des tourneurs, où on construisait les modèles pour la fonte des pièces de mécanique. Dans cet atelier, assez vaste et voisin du pavillon de M. Labroux, se trouvaient 5 établis et 2 tours. Une sorte d'entresol, aussi vaste que l'atelier lui-même, contenait les modèles rangés et numérotés. La partie du bas était encombrée de planches et de madriers de bois débités et de copeaux. Le chef mécanicien vint au contremaître. « Monsieur Garot, lui dit-il, ça ne serait pas dommage de nous débarrasser de cet encombrement de copeaux qui nous gêne.
Demain, je les ferai enlever, répondit Jacques, et il continua son inspection.
Cette inspection terminée, il gagna le cabinet qu'il occupait à côté de l'atelier d'ajustage et s'y enferma. Dans cet atelier, il y avait un bureau, un casier plein de registres et, sous la fenêtre, en pleine lumière, un petit établi garni d'un tour, d'un étau, d'outils de précision et d'une petite forge. Jacques se débarrassa de sa vareuse, passa un tablier de travail, puis, prenant dans un coin des tiges de fer, se mit à forger quelques pièces de serrurerie. L'action du contremaître ne devait étonner personne, car il s'enfermait assez souvent pour exécuter sans être dérangé des modèles qu'il donnait ensuite aux ouvriers. Il travailla sans relâche jusqu'au déjeuner. À l'heure du repas, il sortit comme tout le monde et fut de retour un des premiers. Cette fois, en passant devant la loge, il souhaita le bonjour à Jeanne de l'air du monde le plus naturel et il alla de nouveau s'enfermer dans son cabinet, où il reprit la besogne de serrurier commencée le matin. Le temps était lourd. La chaleur accablante de l'atmosphère annonçait un orage plus ou moins prochain, mais inévitable. Les ouvriers étouffaient à leur établi, quoiqu'ayant eu grand soin d'ouvrir tous les vasistas destinés à donner de l'air. Jacques suait à grosses gouttes, mais peu lui importait la température. Il ne paraissait point en souffrir, forgeant et limant sans relâche. À 6 heures, son travail mystérieux se trouvant fini, il mit dans son tiroir, fermant à clef, les pièces qu'il venait d'achever, quitta son tablier et reprit sa vareuse. Ceci fait, il regarda sa montre. « Encore 1 heure à rester ici, » murmura-t-il. « C'est plus de temps qu'il ne m'en faut pour écrire à Jeanne. » S'asseyant à son bureau, il prit une feuille de papier, la plaça devant lui et saisit une plume. Pendant près de 40 minutes, il resta dans une immobilité complète, le regard fixé sur la feuille de papier blanc. Puis, enfin, faisant un signe de détermination soudaine, il traça rapidement quelques lignes, écrivit la date et signa. Après avoir relu avec attention ce billet laconique, il plia la feuille de papier en forme de lettre, sans la cacheter, et y mit cette suscription. « Madame veuve Jeanne Fortier. » Aussitôt que l'écriture fut bien sèche, il glissa la lettre dans la poche de sa vareuse, et comme 7 heures sonnaient à l'horloge de la fabrique, il fit tinter la cloche dont le son annonçait la fin du travail. Ensuite, il s'occupa de son inspection habituelle dans les ateliers vides. Jeanne, debout sur le seuil de sa loge, regardait les ouvriers sortir les uns après les autres. Le petit Georges, dans la chambre, menait grand tapage, tirant par la ficelle son dada de carton, faisant claquer un fouet et galopant comme s'il eût été à cheval lui-même. « Veux-tu te taire, Georges ? » lui cria la jeune veuve. « Petite maman, » répondit le gamin, « c'est mon dada qui n'est pas sage. Aussi je le corrige. » Et joignant l'action aux paroles, Georges frappa le cheval, non plus avec la mèche, mais avec le manche de son fouet. Or, le coup fut si vigoureusement appliqué que ce manche fendit le carton du ventre sur une longueur de 4 à 5 centimètres. L'enfant, tout penaud, souleva son jouet favori et regarda d'un œil consterné la blessure béante. De peur d'être grondé, il ne dit rien, ne fit plus de bruit et, ramassant quelques fragments de journaux à gravure que sa mère lui avait donnés, il les roula en forme de tampon et les introduisit dans le ventre du cheval que l'étau remplissait imparfaitement. Mais il restait encore un vide assez notable et le gamin, n'ayant plus de papier, se remit à jouer. Le dernier des ouvriers avait quitté la fabrique. M. Ricoux passa, suivi bientôt par le garçon de bureau David. Il ne restait dans l'usine que Jacques Garot. Jeanne attendait avec autant d'impatience que d'anxiété la sortie du contremaître. Les dernières paroles prononcées par lui la veille ne pouvaient s'éloigner de sa pensée. « Demain, avait-il dit, notre sort à tous deux sera fixé. Demain arrivera vite, et quelquefois, cependant, en 24 heures, il se passe bien des choses. » Ces paroles, on en conviendra, étaient faites pour tenir en éveil l'esprit de la veuve. Quel secret cachait donc Jacques Garot? Comment ce secret pouvait-il exercer une influence sur sa destinée à elle? Jeanne se demandait cela. Elle était brûlée par la fièvre de la curiosité et aussi de l'inquiétude, et son regard ne quittait point la porte des ateliers d'où le contremaître devait sortir d'un moment à l'autre. Au bout d'un quart d'heure, il parut, ferma les portes derrière lui, traversa la cour, tenant à la main les feuilles de présence et se dirigea vers la loge. Madame Fortier sentit un frisson passer sur sa chair. À mesure qu'elle voyait Jacques approcher, son cœur se serrait, ses jambes se dérobaient sous elle. Pour se soutenir, elle fut obligée de s'appuyer au chambranle de la porte. Jacques s'avançait, mais lentement. Lui aussi semblait pris d'un grand trouble, d'une émotion profonde en franchissant la distance qui le séparait de Jeanne. Quand cette distance fut franchie, ils se trouvèrent en face l'un de l'autre, se regardant sans prononcer un mot. Rien au monde n'était plus embarrassant que ce silence. Madame Fortier le rompit la première, parlant pour parler. « Ce sont les feuilles de présence que vous m'apportez ? » fit-elle d'une voix tremblante. En même temps, elle étendit la main. « Oui, murmura Jacques, ce sont les feuilles, avec ceci. » Et il montrait la lettre écrite par lui et jointe au papier. « Ceci ? » répéta Jeanne. « Oui, une lettre. »« Pour qui ? » ?»« Pour vous. Prenez, je vous en prie. »« Pourquoi m'écrire quand vous pouvez me parler ? » demanda Jeanne. « Je vous l'ai expliqué hier, » répliqua le contremaître. « Il y a des choses difficiles à dire, faciles à écrire. Savez-vous que vous m'épouvantez avec vos mystères ? Jeanne, prenez cette lettre, et quand je serai partie, lisez-la, » poursuivit Jacques. « Lisez-la vite, et réfléchissez plus vite encore. Votre bonheur, celui de vos enfants, le mien, sont entre vos mains. » « Mais au moins expliquez-moi. » « Non, Jeanne, » interrompit Garot, « je ne vous expliquerai rien. Je ne puis rien vous dire. Lisez, lisez. » Et il sortit rapidement. Jeanne, les mains secouées par un frisson nerveux, le regarda partir. « Il devient fou, » balbutia-t-elle. « Certainement, il devient fou. » Puis, après avoir refermé la porte de la cour, elle rentra chez elle et posa sur une table les feuilles de présence en gardant à la main la lettre jointe à ses feuilles. Elle jeta les yeux sur la suscription, mais un nuage semblait s'interposer entre le papier et ses regards. « Qu'y a-t-il donc dans cette lettre ? » se demanda-t-elle. « Pourquoi suis-je agitée comme si quelque chose de terrible allait s'accomplir ? Pourquoi mon cœur cesse-t-il de battre ? Pourquoi mon sang se glace-t-il dans mes veines ? On croirait que cette lettre renferme l'annonce d'une catastrophe. Non, non, je ne la lirai point. Je ne veux pas savoir ce qu'elle contient. » Et s'approchant d'un petit fourneau sur lequel cuisait le repas du soir, Jeanne avança la main pour laisser tomber la lettre au milieu des charbons ardents. Mais, avant d'achever le geste commencé, elle s'arrêta. « Pourquoi ne point la lire ? » poursuivit-elle. « Peut-être quand j'en connaîtrai le contenu, pourrais-je éviter un malheur ?» Et brusquement, elle déplia la lettre, qui, nous le savons, n'était pas cachetée. Sans hésitation nouvelle, avec une avidité fiévreuse, elle lut ce qui suit. « Chère Jeanne bien-aimée, hier je vous laissais entrevoir, dans un prochain avenir, la fortune et le bonheur pour vous et pour vos enfants. Je puis maintenant vous les promettre d'une façon immédiate et positive. Demain je serai riche, ou du moins, les moyens de commencer une grande fortune seront dans mes mains. Je posséderai une invention qui donnera des bénéfices incalculables, et j'aurai près de 200 000 francs pour l'exploiter. Point de fausse honte, Jeanne. Songez à vos enfants qui deviendront les miens, et cette pensée vous donnera du courage. Je vous attendrai ce soir, à 11 heures, avec le petit Georges, au pont de Charenton, et je vous conduirai dans une retraite sûre, d'où nous partirons demain pour l'étranger, où nous serons riches et heureux. Quittez sans regret cette maison dont le maître vous chasse. Venez à celui qui vous aime, et ne vous fera jamais défaut. Si vous ne veniez pas, Jeanne, je ne sais à quelle extrémité le désespoir me pousserait. Mais vous viendrez. » Jacques Garot, 7 septembre 1861. « Qu'est-ce que cela signifie ? » murmura Jeanne stupéfaite après avoir lu. « Jacques perd la tête, je le disais bien. Il prend ses rêveries ambitieuses pour des réalités. Qu'est-ce que cette invention qui, selon lui, doit rapporter des sommes énormes ? D'où lui viendrait près de 200 000 francs ? Il m'attendra ce soir au pont de Charenton. C'est à la maison des fous qu'il devrait aller. C'est là qu'est sa place. À moins qu'il ne me tende un piège. Sachant que je vais me trouver aux prises avec le besoin, il espère peut-être que l'appât de l'argent me jettera dans ses bras. Si c'est un piège, il est trop grossier. Je n'y tomberai point. Je suis une honnête femme. Je resterai une honnête femme. Cette lettre me faisait peur. J'avais bien tort de m'effrayer. Elle ne mérite que du dédain. En disant ce qui précède, Madame Fortier froissa la feuille de papier, la pétrit entre ses doigts et la lança sur le plancher, où elle roula jusqu'à l'un des angles de la pièce. Georges avait cessé de jouer pour suivre du regard, mais naturellement sans y rien comprendre, la pantomime expressive de sa mère. Il vit la boule de papier s'abattre sur le parquet et rouler. La nuit venait. « Je vais allumer mes lanternes, » dit Jeanne en prenant une bougie sur un buffet. Elle ajouta. « Surtout, Georges, ne touche pas à la lumière. »«
Non, petite maman, » répondit le bambin.
Jeanne sortit en refermant la porte derrière elle. Dès que l'enfant fut seul, il alla ramasser le papier que sa mère avait jeté sur le sol, et sans le dérouler, il s'empressa de l'introduire dans le ventre de son cheval de carton.
« Il en tiendrait encore ?»
fit-il en cherchant du regard s'il ne trouverait pas quelque autre papier. Les feuilles de présence attirèrent son attention. Mais il savait qu'on en ferait usage le lendemain matin. Il n'osa pas en soustraire une ou plusieurs pour remplir la cavité de son jouet, et il dut se contenter d'un morceau de chiffon qu'il recueillit dans un coin. Jeanne avait allumé les réverbères qui chaque nuit éclairaient les cours de l'usine. Le temps était sombre, l'atmosphère lourde. D'instant en instant, des éclairs silencieux, qu'on appelle éclairs de chaleur, sillonnaient le ciel couleur d'encre.
« Georges, » dit Jeanne à son fils en rentrant, « nous allons avoir de l'orage. Dînons vite et tu iras te coucher.
Est-ce qu'il fera des coups de canon en l'air avec un grand feu blanc, petite mère ?»
demanda l'enfant.
« Je le crois.
Alors, j'aurai peur ?»«
Non, non, ça ne sera rien. »
« Et si ça fait boum, boum, tu me laisseras revenir près de toi ?»«
Je te le promets. » Jeanne et son fils prirent leur repas, ce qui ne fut pas long, car le menu n'était guère compliqué. À 9h30, Georges reposait dans son petit lit, entouré de ses jouets que, par une manie enfantine, il montait avec lui chaque soir au premier étage. Madame Fortier avait l'habitude de faire une ronde entre 10h30 et 11h avant de se coucher. Elle attendait en travaillant le moment de cette ronde. L'orage prévu approchait rapidement. Aux éclairs de plus en plus fréquents, des coups de tonnerre succédèrent au loin, répétés par les échos des nuages. Bientôt, le vent se mit de la partie, fouettant de ses rafales impétueuses les bâtiments de l'usine, et la tempête se déchaîna dans toute sa force. Jeanne, en travaillant, pensait à Jacques. Plus elle y pensait, plus elle sentait s'affermir en son esprit la conviction que le contremaître jouait un rôle odieux et cherchait à l'attirer dans un piège d'où son honneur ne sortirait pas. Une sourde colère montait en elle. 11h sonnèrent. Jeanne se leva et voulut quitter la loge pour faire sa ronde accoutumée. Au moment précis où elle ouvrait la porte, un formidable coup de tonnerre éclata tout près de l'usine, en même temps qu'une trombe de vent éteignait la lumière qu'elle tenait à la main.
Impossible de sortir par un temps pareil, murmura Madame Fortier. « Je serai renversée. »
Elle rentra et referma la porte. Un second coup de tonnerre retentit, plus vibrant, plus assourdissant encore que le premier.
« Maman, maman !» cria le petit Georges d'une voix que l'effroi rendait tremblante. « J'ai peur !»
Jeanne se hâta de monter auprès de son fils qui venait de sauter à bas du petit lit. L'enfant se jeta dans ses bras, tremblant, sanglotant, avec des gémissements et des plaintes. Madame Fortier voulut l'apaiser. Ce fut en vain. L'orage redoublait et Georges, grelottant, semblait de plus en plus effaré.
« Habille-moi » criait-il. « Habille-moi, petite maman !»
Jeanne l'habilla comme il le désirait, espérant le calmer en lui cédant. Peu à peu, les grondements du tonnerre devinrent plus rares et parurent s'éloigner. Mais le vent continuait à souffler en foudre et la pluie tombait comme si toutes les écluses du ciel venaient de s'ouvrir. Le tremblement nerveux de Georges s'était apaisé. Ses bras ne se crispaient plus avec angoisse autour de la taille de sa mère.
« Joue un peu, mon mignon, » lui dit Jeanne pour le distraire.
Et prenant elle-même la ficelle du cheval de carton, elle le fit rouler en criant
« Udada !»
Le cheval fit une cabriole. Georges se mit à rire et frappa ses mains l'une dans l'autre. Tout était oublié. Il ne pensait plus à avoir peur. La pluie, cependant, tombait toujours.